C'est donc l'heure de faire place à l'interview politique. Vous recevez ce matin François Geffrier, Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise.
Bonjour Maxime Minot.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Lors de la bataille du mariage pour tous en 2013, la quasi-totalité de la droite était contre. Aujourd'hui, la procréation médicalement assistée, la PMA, arrive et vous faites partie des députés de droite qui soutiennent ce volet du projet de loi bioéthique. Pourquoi ?
Parce que je pense avant tout à ces 2000 à 3000 femmes qui partent à l'étranger chaque année pour bénéficier d'une PMA, puisque ce n'est pas encore autorisé en France. Et je pense avant tout à cette question de santé publique, puisqu'il y a aussi une question de sécurité de nos compatriotes. Quand je pense que certaines d'entre elles sont dans le désespoir, prêtes à commander du sperme sur Internet, je pense qu'il est temps de légiférer sur le sujet.
Que faites-vous de la révolution que la PMA induit sur la filiation ? C'est le grand argument, notamment de vos camarades de droite, contre cette réforme.
La filiation, effectivement, est un sujet très important. Moi, je pense notamment à la levée de l'anonymat des donneurs qui peut-être poser problème, mais il semble bien encadré dans le projet de loi. Il est vrai qu'il est important que les débats arrivent à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse, nous tous, s'exprimer sur le sujet. Mais en tout cas, effectivement, c'est une question qui sera à se poser lors du débat à l'Assemblée nationale le 24 septembre prochain.
Alors, cette question de la PMA pose aussi d'autres débats. Les couples infertiles qui avaient déjà droit à la PMA redoutent qu'avec cette réforme, ils soient face à un parcours du combattant encore plus compliqué pour avoir un enfant, car ils seraient en concurrence, en quelque sorte, désormais avec des couples de femmes et des femmes seules. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte d'effet malsain ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un effet malsain. Après, il est vrai qu'on manque de donneurs. Il manque à peu près 500 donneurs en France. C'est pour ça qu'il faut, je pense, revoir, et cette loi permettra justement de revoir l'ensemble de la loi sur les dons de sperme et les dons d'ovocytes. Donc ce sujet, justement, il permet le débat et permet peut-être une évolution sur l'encadrement de ces dons.
Est-ce que vous-même, sur cette question de la PMA, vous avez évolué ? Est-ce que vous avez changé d'avis ? Ou est-ce que vous avez toujours été favorable à l'extension de la PMA aux couples de femmes ?
Alors, j'ai toujours eu ce sentiment de me dire qu'il fallait une certaine égalité, une certaine équité entre tous nos Français. Parce que moi, en tant que député de la Nation, ce qu'on me demande, c'est de faire la loi, une loi juste et équitable. Et il est vrai que, suite au mariage pour tous, lorsque le débat a eu lieu en 2013, j'étais favorable au mariage pour tous. Et je m'étais dit, effectivement, il faut évoluer aussi sur cette question de la PMA pour permettre aux couples de femmes de pouvoir procréer. Mais j'ai toujours ce sentiment d'y être favorable. Après, effectivement, depuis que je suis député, j'ai rencontré de nombreuses personnes dans ma circonscription qui, eux, ont fait appel aussi à la PMA. On en voit dans nos collègues également. Donc je pense que voilà, c'est important et il y a une inégalité sociale qu'il faudrait gommer.
Alors, je le disais, vous êtes loin d'avoir la même position que tous vos camarades des Républicains. Dans une tribune dans le journal Le Monde, vous écriviez il y a quelques jours avec d'autres « Notre approche sera plus qu'un choix favorable ou hostile à l'extension d'un droit. Il exprimera une conception de la droite du XXIe siècle. » Ça veut dire que pour vous, la PMA, ça pourrait être le début d'un début de pivot idéologique de la droite ?
Alors, je ne sais pas si ce serait un pivot idéologique. Ce qu'il est certain, c'est que la droite ne peut pas rester sur le bas-côté lors de ce débat. Il est important de montrer qu'on n'a pas cette casquette conservatrice et archaïque qu'on veut tout le temps nous coller. Et je pense que c'est important de pouvoir exprimer aussi un côté progressiste et dans l'ensemble où de nombreux collègues y étaient favorables, n'osaient pas forcément le dire. Donc moi, je me suis dit, il faut aussi porter la voix des gens qui y sont favorables. Et je le voyais ne part dans les réseaux sociaux, les personnes qu'on peut rencontrer sur le terrain, que beaucoup de personnes de droite y étaient favorables et qu'il était aussi important.
Mais vous n'êtes pas encore majoritaire sur cette position.
On n'est pas encore majoritaire
chez les Républicains.
Pour l'instant, on est toujours minoritaire et je ne sais pas. Mon but, c'est pas que l'on soit majoritaire. Le but, c'est de faire avancer le débat et qu'on soit prêt à entendre et à discuter sur le sujet.
Mais vous semblez reprocher à certains de vos collègues un peu d'agir par réflexe ou par paresse intellectuelle.
Alors, j'ai jamais parlé de paresse intellectuelle.
C'est dans cette tribune du Monde.
C'est juste que je me dis qu'effectivement, il est temps de se saisir du sujet et de ne pas avoir cette casquette, comme je vous l'ai dit, archaïque et conservatrice, mais d'évoluer sur le sujet et de ne pas être dans l'opposition systématique comme ça a pu l'être pour le mariage pour tous. Personne, je dis bien personne, n'a envie de revivre un acte 2 du mariage pour tous. On en a tous gardé des séquelles. Moi, en tant que député, j'ai trouvé ça affolant, le débat, quand il a eu lieu dans l'hémicycle. Donc, j'ai vraiment pas envie de vivre ça pour cette PMA. Donc, effectivement, il est temps qu'on se saisisse du sujet et qu'on puisse débattre. Tout simplement qu'on puisse en débattre pour un débat apaisé.
Vous parlez de 2013. Dès les manifestations de 2013, on entendait les opposants dire et craindre après le mariage pour tous, on va nous faire le coup de la PMA, puis ce sera la GPA. Là, ils ont déjà à moitié raison. Est-ce que la GPA va arriver ? Est-ce que vous y êtes favorable ? Comme le souhaite notamment Mounir Majoubi, qui est un ancien secrétaire d'État de ce gouvernement.
Écoutez, pour le moment, on parle de PMA et je pense qu'il faut rester focalisé sur la PMA.
Je rappelle, hein, PMA, procréation médicalement assistée, GPA, ce sont les mères porteuses pour
exactement,
le dire en amont.
La gestion pour autrui.
Gestation.
Mais le texte qui est voté, qui sera voté prochainement, ne se préoccupe que de la PMA et non de la GPA. Donc si on veut justement un débat apaisé, il est préférable de rester et de se focaliser sur le sujet de la PMA. Parce qu'effectivement, le débat sur le mariage pour tous est peut-être devenu houleux parce que les gens, on voit toujours l'étape d'après. Mais voilà,
L'étape d'après peut paraître logique quand on ouvre la possibilité à un couple de femmes d'avoir un enfant. Les couples d'hommes pourraient dire, nous aussi, on veut avoir notre méthode pour avoir un enfant.
Peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du jour.
Alors le sujet du jour, c'est aussi cette déclaration intempestive à nouveau de Donald Trump sur Twitter qui parle de la stupidité de Macron. Il s'agirait pour lui de mettre des représailles sur la taxe que la France a prise contre les géants du numérique, notamment qui sont Facebook, Google américains. Et les vins français pourraient être taxés. Que pensez-vous de cette déclaration? Est-ce que ça vous choque, ce mot de stupidité?
Bah oui, bien évidemment, ça me choque. Enfin, on ne peut être que choqué par ces propos, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on insulte le président français, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, hein, je sais ce dont je parle parce que je suis dans l'opposition, mais on insulte tous les Français. Ça reste le président de la République française, président de l'ensemble des Français. Donc lorsque Donald Trump, effectivement, insulte le président français, pour moi, il insulte l'ensemble des Français. Et lorsqu'il parle de taxer, effectivement, le vin français, il oublie aussi de dire que les importations du vin Made in America ont augmenté ces 10 dernières années de près de 200%. Et que si...
Lui, il dit qu'il préfère le vin américain au vin français, d'ailleurs.
Peut-être parce qu'il ne respecte pas l'AOC. Donc peut-être
sachant qu'il est réputé pour ne pas boire d'alcool. Bon, mais pas avec contradiction près.
Voilà, il se contredit lui-même. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est très irrespectueux de la nation française.
Sur le fond, est-ce qu'il a quelque part raison sur cette taxation des géants du numérique? On ne taxe comme ça quelques grandes entreprises, Facebook, Google, parce qu'elles ne payent pas suffisamment d'impôts en France?
Alors, ce débat, il a eu lieu effectivement dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'effectivement, il est normal que ces géants du numérique payent une taxe et soient taxés. Après, effectivement, le débat a été houleux de la part par rapport à la proportionnalité de ces taxes. Mais pour en revenir à Donald Trump, il ne faut pas oublier que notre président français, effectivement, essaie de trouver des solutions pour nous sortir de cette galère financière. Mais en tout cas, Donald Trump, il ferait mieux de s'occuper de son pays et non d'une autre.
Maxime Minot, député Les Républicains de l'Oise, merci d'avoir été
l'invité
de l'interview politique d'Europe 1 ce matin.